La première, podcast. Destination ailleurs. Corinne Boulangier.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la première, bienvenue dans Destination ailleurs. Jusqu'à 10h aujourd'hui, je vous propose d'explorer des paysages très proches et en même temps qui nous sont de plus en plus lointains. Ce sont nos paysages intérieurs. Et oui, nos émotions, nos sensations, cette intériorité dont nous nous préoccupons de moins en moins. Aujourd'hui, avec pour conséquence burn-out, dépression, souffrance psychosociale qui serait liée à cette déconnexion typique de notre vie moderne. Des psychologues invitent aujourd'hui à prendre le mal à la racine et à éduquer nos enfants dès le plus jeune âge à plus de conscience d'eux-mêmes. Cela s'appelle la pleine conscience. On va être mindful dans cette émission aujourd'hui jusqu'à 10h. Bienvenue dans Destination ailleurs.
Jusqu'à 10h sur la première. Destination ailleurs.
Et pour parler de cette nouvelle pratique pédagogique dont on parle de plus en plus chez nous, et pour parler de cette pratique pédagogique qui est de plus en plus en vogue chez nous, une invitée qui la pratique ce matin. Bonjour Sophie Reynal.
Bonjour.
Alors comment est-ce que je dois vous appeler? Madame la thérapeute, madame la prof de pleine conscience, comment est-ce que je dois dire?
On dit plus généralement instructrice de pleine conscience.
Instructrice, c'est un côté...
Ou animatrice d'atelier de pleine conscience.
D'accord. Sophie Reynal, après avoir fondé sa crédibilité dans le milieu médical, cette pratique, cet outil, cette méthode, cette technique d'apprentissage de la pleine conscience aujourd'hui arrive dans les écoles, arrive dans les entreprises. Vous initiez petit à petit, vous avec d'autres, le secteur de l'enseignement à cette pratique de la pleine conscience. S'il fallait à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, très brièvement dire ce que c'est. C'est quoi la pleine conscience ?
La pleine conscience, pour être très concise, c'est un apprentissage de l'esprit à être le plus souvent possible présent. Mmh. On appelle ça une attention présente, c'est-à-dire pouvoir être là avec ses pensées, dans ce qu'on fait dans l'instant présent.
Ouais. Et ça sert à quoi ?
En ce qui concerne par exemple les enfants et l'aide aux apprentissages, ça les aide à être plus attentifs, plus concentrés, également plus de ressources vers leur capacité de mémorisation. Mmh. Ça va aussi aider à mieux gérer ses émotions, à mieux les reconnaître, mieux les accueillir, savoir un petit peu faire des temps de pause quand on se sent trop envahi par une émotion. Mmh. Et là, par exemple, dans le cadre également des enfants et des apprentissages, c'est quelque chose qui peut être très appréciable, puisque un enfant qui est complètement tourmenté par une colère, une tristesse ou une peur ne va rien faire en classe de bon, ne va pas écouter, ne va pas réussir à se concentrer. Et puis, ça sert également à apprendre à profiter du moment présent, ouais, à apprécier les bons moments. De nombreux parents que je rencontre qui ont initié leurs enfants à la pleine conscience disent « Ah, si j'avais pu faire ça quand j'étais jeune, peut-être que je ne serais pas passée à côté de très beaux moments de ma vie, ouais, que j'ai l'impression d'avoir occulté. » Ouais,
avoir raté.
Oui. Mmh. Ouais, ouais.
Alors, c'est aujourd'hui une pratique pédagogique, notamment, parce que ce n'est pas seulement le milieu scolaire qui s'y ouvre petit à petit à cette pratique de la pleine conscience. C'est une pratique qui de plus en plus s'installe en Belgique, hein, presque, à la limite, on pourrait penser que c'est un effet de mode. C'est une pratique qui est objectivée, qui a fait ses preuves dans le milieu médical. C'est un courant qui nous vient des États-Unis, c'est l'Amérique du Nord qui a initié ce genre de choses.
En fait, la pleine conscience, qu'on appelle aussi la mindfulness, c'est une pratique millénaire, très très ancienne, qui nous vient du bouddhisme. Mm-hmm. Donc le Bouddha préconisait d'établir la pleine conscience dans la vie de tous les jours, en maintenant autant que possible une prise de conscience calme de son corps, de ses sensations et de son esprit.
Mais donc, c'est quoi ? C'est de la méditation, la pleine conscience, ou aïe aïe aïe, ça c'est le terme qui fait peur et qu'on ne peut pas utiliser ?
Alors, la pleine conscience peut se conjuguer sous deux aspects, je dirais. Il y a l'aspect qui va être plus formel, méditation, c'est-à-dire une pratique régulière, de 15, 20, 30 minutes par jour. Là, on parle d'une pratique assise où on va diriger son attention sur un objet qui peut être la respiration, les sons, les pensées, les sensations. Et puis, il y a l'aspect informel, c'est-à-dire que par différents exercices, différentes pratiques et enseignements, on va apprendre aux enfants ou aux adultes à être plus présents dans leur vie de tous les jours, quand ils se brossent les dents, quand ils mangent, quand ils vont faire du sport, quand ils prennent leur voiture. Et là, c'est vraiment plus informel et c'est appliqué appliquer à notre quotidien.
Oui, c'est une façon d'être. C'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est pas une pratique un peu qui ferait penser à une secte, la pleine conscience.
Pas du tout. En fait, il y a effectivement, comme les pratiques de pleine conscience ont été présentées il y a des milliers d'années par le bouddhisme, il y a une tendance aujourd'hui à penser que c'est religieux, sectaire. Ouais. On a vu aussi les Beatles dans les années 50, 60, se mettre à la méditation transcendantale. Et du coup, dès qu'on parle de méditation, même si c'est à la méditation de pleine conscience, on pense un petit peu à ces hippies là qui allaient se mettre dans la colline et méditer.
C'est plus sérieux que ça.
En fait, dans les années 70, un médecin américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn a examiné de plus près les liens corps-esprit et a pu constater que l'utilisation de la pleine conscience dans le processus de guérison de tout ce qui est pathologie du stress, anxiété, dépression, avait un impact assez important, efficace. Et donc, il a développé vraiment une méthode qui s'appelle la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qu'il a commencé à utiliser dans un hôpital. Ensuite, ça s'est répandu dans de très nombreux hôpitaux aux États-Unis. Je crois que c'est le cas maintenant dans 250 hôpitaux. Et puis, ça s'est répandu ensuite sur l'Europe, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas. Il y a de nombreux pays déjà qui la pratiquent en milieu hospitalier et qui commencent également à l'introduire en milieu scolaire. Et puis, on voit aussi également l'engouement dans le milieu du travail.
Oui. Je voulais absolument évoquer ces nuances d'entrée de jeu avec vous, parce que c'est vrai, il y a tout un imaginaire qui est lié à ces pratiques associées, comme vous l'avez rappelé, hein, à une époque où c'était peut-être un peu fun aussi, et pas toujours très sérieux, ces pratiques de développement de l'esprit. Ça change tout doucement, c'est une évolution notoire qui amène aujourd'hui ces pratiques de pleine conscience chez nous. Comment ça se passe? Quels sont les effets objectifs, objectivés par les neurosciences sur nos cerveaux, et quels sont les bénéfices sur la société? C'est de tout ça aussi dont on va parler avec vous, Sophie Reynal, jusqu'à 10h dans cette émission, tout de suite sur la première. Avant d'y revenir avec vous, voici Francis Cabrel, parti pour rester.
Jusqu'à 10h sur la première.
Destination ailleurs.
Destination ailleurs, en effet, jusqu'à 10h sur la première. Nous parlons aujourd'hui de ces paysages qui nous sont de moins en moins connus et qui pourtant nous sont éminemment intimes, éminemment présents. Ce sont nos paysages intérieurs. Dans la société connectée, rapide, société de consommation qui est la nôtre aujourd'hui, nous sommes de plus en plus, ou nous serions de plus en plus, déconnectés de notre intériorité, avec de plus en plus d'avis du secteur médical. Pour conséquence à cette déconnexion, les burn-out, dépression, les divers mal-être plus ou moins important, qui sont nos mots de société actuels venus de l'univers médical. La pratique de la pleine conscience aujourd'hui, petit à petit, se répand dans les entreprises, dans les écoles, avec pour objectif d'aider les individus que nous sommes à se poser, à mieux se concentrer, à mieux profiter du temps présent, et quelque part aussi, bah oui, dans la société de productivité que nous sommes, c'est une réalité, à être plus productif. Sophie Reynal est une praticienne, thérapeute, instructrice de cette nouvelle pratique de la pleine conscience, particulièrement dans le secteur scolaire. Vous êtes avec nous, Sophie Reynal, jusqu'à 10h aujourd'hui. Ne soyons pas naïfs. Pour certains qui la pratiquent ou certains qui la promeuvent, la pleine conscience, c'est forcément pour travailler le bien-être de l'individu, mais c'est aussi dans un but objectif de mieux apprendre, de mieux être performant dans les entreprises. On sait que les burn-out aujourd'hui, que peut-être la pleine conscience peut aider à canaliser, ce sont des difficultés aussi en termes de gestion de personnel. La pleine conscience, c'est un outil parfois au service de notre société hyper speedée.
Oui, en effet, mais par exemple, dans le monde du travail, les employeurs prennent de plus en plus conscience que si les membres de la société, du personnel, sont épanouis, ont un équilibre psychique, effectivement, ils pourront mieux travailler, mieux collaborer, mieux interagir, mieux effectuer leurs tâches. Et donc, les objectifs à atteindre n'en seront que mieux réalisés.
Mmh. Et pour les enfants, ça aide à davantage de performance, à l'apprentissage aussi, en plus d'un bien-être général, qui est plutôt ce que vous recherchez, vous, en tant que praticienne de la pleine conscience. Ce n'est pas l'objectif d'apprentissage amélioré qui est vraiment votre objectif à vous.
Non, ce n'est pas l'objectif premier, mais je réponds également à un besoin croissant venant des écoles, des instituteurs qui observent de plus en plus d'agitation, problèmes d'attention, de concentration des élèves et qui cherchent comment est-ce qu'on peut les aider à pallier à ces carences en attention, en concentration. Donc effectivement, l'enfant va apprendre à se centrer, à être plus attentif et plus concentré. Ça va l'aider dans les apprentissages et puis ça va aussi l'aider à être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux dans son rapport au monde, je dirais.
Vous disiez tout à l'heure que c'est une pratique qui, au niveau des thérapies psychologiques, est venue des États-Unis. Au Canada, aujourd'hui, il y a de nombreuses villes qui ont intégré vraiment un système d'approche pédagogique dans le système d'éducation de cette pleine conscience. Ça fait partie de la manière d'envisager l'école dans certains systèmes d'enseignement en Amérique du Nord.
Oui, c'est le cas par exemple à Toronto. Je crois qu'il y a un très grand nombre des écoles de cette ville qui ont vraiment entamé un programme de pleine conscience dans les programmes scolaires. Le Canada, à mon sens, est un pays qui est vraiment un modèle pour nous en tout ce qui est ouverture vers les nouveautés pédagogiques de toutes sortes. Il nous le montre une fois de plus avec l'application de la pleine conscience dans le milieu scolaire et cette belle ouverture qu'ils ont vis-à-vis de ces outils qui peuvent vraiment aider les enfants.
Oui, ben on ira tout à l'heure en fin d'émission au Canada précisément pour observer avec certains profs qui la pratiquent là-bas, la pleine conscience, les résultats concrets et objectivés à l'américaine sur les bénéfices que l'on peut en retirer. Sophie Reynal, la pleine conscience, quand on la pratique, et vous la pratiquez, non seulement en plus de l'enseigner, qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait quoi?
D'une manière générale, je dirais que ça apporte un plus grand apaisement, une plus grande paix intérieure, avec à côté les effets, par exemple, plus de clairvoyance. Lorsqu'on a une pratique régulière, on va mieux pouvoir voir une situation, un problème avec plus de clairvoyance. Ça va également aider dans certaines situations difficiles, de conflits, que ce soit à l'école, à la maison, dans le milieu familial, à pouvoir mieux observer le fonctionnement de l'esprit, les émotions qui arrivent, les pensées, et ne pas réagir de façon automatique ou impulsive, qui bien souvent nous entraîne vers des comportements qu'on n'aurait pas choisis en ayant eu le temps de se poser justement. Donc la pleine conscience nous donne aussi cet espace où on va pouvoir se poser, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, de nos pensées, peut-être si on a l'opportunité faire une vraie pause respiration. Et puis choisir, décider de ce qu'on fait.
Et même pour les tout-petits, c'est fascinant ce que vous dites là, parce que ce sont des notions extrêmement abstraites. Alors vous qui enseignez parfois de tout petits enfants, de toute petite classe, ces pratiques de la pleine conscience, comment peuvent-ils intégrer ce genre de notions qui, encore une fois, quand vous les décrivez, ont l'air éminemment abstraites?
Alors, il faut savoir que cet aspect que j'appelle prise de conscience métacognitive, c'est-à-dire pouvoir s'observer soi-même en train de faire, en train de penser, en train d'agir. Les enfants ne sont capables d'acquérir cette compétence que vers, je dirais plutôt, 8-9 ans. Les plus petits, on va plus travailler sur le ressenti corporel, on va faire plus de choses en mouvement, et c'est seulement vers 8-9 ans qu'on va commencer à pouvoir enseigner aux enfants qu'une émotion, par exemple, c'est composé de ce que tu ressens dans ton corps, des pensées que tu observes et d'un comportement que tu vas avoir. Et ils vont être capables, à force de s'exercer, de faire des petits jeux, des petits exercices ensemble, de pouvoir distinguer ces choses-là et après de pouvoir justement mieux gérer leurs émotions, mieux l'accueillir.
Ça veut dire que les petits, ils pratiquent la pleine conscience s'ils y sont éduqués par le corps professoral, par les parents, par qui que ce soit, sans avoir conscience de le faire quelque part. C'est seulement à partir de 7-8 ans, 8-9 ans, comme vous le disiez, qu'il y a là une pratique volontaire de ce type d'approche.
Disons que oui, vers 8-9 ans, ils arrivent plus à prendre conscience des mécanismes de leur esprit, Alors que les petits, ils vont plus arriver à se calmer en utilisant leur respiration, en faisant des petits exercices dans la lenteur de ressenti qui vont justement les aider à se poser, à se calmer.
Ouais, et on va voir que, objectivé par la science et par l'imagerie médicale, vous allez nous l'expliquer dans un instant, ce sont pas juste des évaluations subjectives, ce dont vous nous parlez là, mais c'est attesté encore une fois par la preuve. On va en parler avec vous, Sophie Reynal, juste après. Allez faire un tout petit tour dans une classe, un groupe d'enfants qui pratiquent la pleine conscience. C'est une des manières de le faire, et il y en a d'autres. Laissez-vous faire et à la limite, initiez-vous, initions-nous avec eux à la pleine conscience.
Alors, on va faire un exercice pour se sentir bien tous ensemble. On va tous se donner la main et on va juste sentir dans son corps qu'est-ce que ça nous fait de nous sentir tous reliés et d'être tous là ensemble. D'accord ? Et maintenant, vous allez faire un grand cercle sur la feuille. Et vous allez écrire dans ce cercle tout ce qui vous fait peur dans la vie, tout ce qui vous fait très peur.
T'as écrit beaucoup, beaucoup de choses.
Oui. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je suis un peu sensible, donc j'ai profité.
Alors maintenant, ce qu'on va faire avec cette feuille, c'est que vous allez la plier de la façon la plus petite possible. Et maintenant, ouvrir la boîte à peur. Et on va enfermer dans la boîte à peur. Ça y est, tes peurs sont enfermées, tu peux repartir tranquille. Allez, vas-y.
Je me sens un peu plus relaxée parce que j'ai pas ces poids à porter de malheur, enfin de peur.
Quand on met son stress ou sa peur dans la boîte à peur ou à l'extérieur de soi, eh bien, ça veut dire qu'on renie pas la peur. La peur, elle nous appartient, mais elle est enfermée et on peut continuer à fonctionner.
Et voilà, nous sommes de retour en studio avec vous, Sophie Reynal. On était à l'instant dans un groupe de petits-enfants qui sont dans un atelier où on ne leur dit pas qu'on fait un atelier de pleine conscience, mais ça ressemble à de la psychomote, ça ressemble à un cours un peu de musique où on apprend à se poser. C'est un moment de socialisation aussi en classe. Est-ce qu'on peut dire, Sophie Reynal, qu'il y a autant de praticiens de la pleine conscience qu'il y a de groupes qui l'apprennent, ou il y a quand même vraiment une méthode particulière à suivre, un chemin?
Disons que, par exemple, dans le cadre des écoles, il est conseillé de faire appel à un instructeur ou une instructrice formée pour justement partir dans un programme qui est structuré, adapté, pédagogique et évolutif, qui va également former le professeur qui pourra par la suite utiliser les outils. À côté de ça, il existe de très bons livres pour parents, enseignants et enfants qui donnent, je dirais, peut-être une première approche, une première sensibilisation. Je connais des professeurs qui ont utilisé ces livres avant que j'arrive dans les groupes. Alors, ils ont ressenti certaines choses, mais ils sont arrivés quand même à un moment à la limite en disant « Oui, bon, voilà, on a fait l'exercice 3 fois et puis les enfants ne savaient pas très bien où on voulait en venir. Ouais. » Donc, à mon sens, il y a quand même tout un suivi, un enseignement à faire autour des exercices qu'on peut proposer aux enfants.
Oui, parce que c'est un outil, c'est une méthode. Voilà. Même, il ne suffit pas d'en avoir une appropriation subjective. S'il fallait citer un livre, puisque vous en parlez, il y en a un qui a un titre magnifique, qui évoque une grenouille.
Oui, alors ça s'appelle « Calme et attentif comme une grenouille », qui est déjà assez connu dans le milieu des enfants, milieu scolaire, pour justement les pratiques de la pleine conscience, donc qui a été écrit par une thérapeute hollandaise qui s'appelle Elin Snell.
Et pourquoi cette image de la grenouille? Parce que c'est magnifique, une grenouille, c'est vrai, c'est rond, c'est plein, ça ne bouge pas. Et tout à coup, hop, c'est capable d'aller vous capter une mouche. C'est pour ça que c'est utilisé, cette image de la grenouille?
Alors, elle a utilisé l'image de la grenouille pour expliquer aux enfants, s'inspirer de cette grenouille pour apprendre à ressentir sa respiration. Parce que quand on observe une grenouille, on peut voir que d'une part, elle peut bondir, sauter de tous côtés, mais qu'elle est capable de rester très longtemps immobile, sans bouger, ne pas réagir à ce qui se passe autour d'elle, et on peut observer que son ventre se gonfle et se dégonfle doucement. Et c'est donc un bel exemple ludique et que les enfants apprécient pour apprendre à être attentif à sa respiration.
Ouais. Sophie Reynal, nous parlons de cette pratique de la pleine conscience qui pénètre peu à peu le monde scolaire aujourd'hui en Belgique, un courant qui est venu d'Amérique du Nord, qui a fait ses preuves dans le milieu médical. L'imagerie médicale nous montre qu'au niveau du cerveau, il y a de véritables changements qui sont amenés par cette pratique de la pleine conscience.
Oui, en effet. Il y a eu de nombreuses études en neurosciences qui ont pu observer justement que par une pratique régulière, on peut modifier de manière mesurable certaines zones du cerveau associées au bien-être, à la mémoire, à la conscience de soi et au stress.
Et les faire évoluer comment ? Avec l'épaississement de certaines membranes, avec le développement de la matière grise par exemple, c'est vraiment quantifiable et mesurable, ces évolutions.
On a découvert, en effet, que le cerveau peut modifier de lui-même ses structures lorsque on utilise certains circuits plus fréquemment.
Oui.
Donc si, par exemple, on joue beaucoup au piano, on va modifier une partie du cerveau parce que certains circuits vont être beaucoup utilisés. Et d'autre part, si justement on n'utilise pas ces circuits, eh bien, ils vont s'étioler doucement. Et l'entraînement à la pleine conscience, justement, a été observé en milieu médical. Et on a pu constater, par exemple, que chez des méditants qui avaient déjà un grand nombre d'heures de pratique, le lobe frontal gauche était plus actif chez ces personnes que chez la plupart des gens. Et ce lobe frontal, en fait, il gère les émotions positives, telles que la joie, le bonheur, l'enthousiasme, la maîtrise de soi.
Sophie Reynal, la pleine conscience dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que c'est juste un effet de mode ? Parce que, ma foi, on en parle de plus en plus, c'est un terme qui apparaît de plus en plus dans les médias aujourd'hui. Effet de mode ou bien est-ce que ça répond vraiment à un besoin de société aujourd'hui ?
Alors, pour faire un parallèle, je dirais que depuis quelques décennies, l'homme, dans sa quête de progrès, il invente des voitures, des motos, des escalators, des tondeuses autotractées, toutes sortes d'engins motorisés pour aller toujours plus vite et se déplacer moins. Et qu'est-ce qui se passe en parallèle ? C'est que les salles de fitness, de sport se multiplient, les gens y courent, vont faire des jogging, toutes sortes d'activités sportives, parce qu'ils ont un manque, ils ne bougent plus, en fait, à cause ou grâce, la question est autre, à ce progrès technologique. Et pour notre esprit, en fait, c'est pareil. On vit dans une époque où on est carencé en termes de moments de calme, de lenteur et de continuité. Et on perçoit vraiment que ça nous manque. D'où cette attirance, cette envie d'aller vers des pratiques comme la pleine conscience, mais aussi le yoga, le qigong, le tai chi, qui vont nous amener à nouveau vers ces moments de reconnexion à nous-mêmes, de lenteur, de calme.
Oui, simplement pour faire une petite pause, une parenthèse dans les multiples sollicitations qui sont omniprésentes aujourd'hui dans ce monde que nous nous fabriquons, en fait. C'est ça, c'est pas du tout l'idée de refuser ce monde-là hyperconnecté, de consommation, de la vitesse, c'est simplement de se ménager des espaces pour soi dans ce monde-là. C'est un apprentissage.
Tout à fait, parce qu'on est sollicité sans arrêt. Et l'homme a un besoin réel de développer cette intériorité.
Oui.
Et la civilisation dans laquelle on est l'empêche d'aller vers cette intériorité, mais au contraire l'invite sans cesse vers l'extérieur, vers l'extérieur de lui. Il n'est plus en lui.
Et quand vous dites « nous avons besoin d'intériorité », c'est une sensation que pour la plupart d'entre nous, nous partageons régulièrement. Mais c'est objectivable, ça aussi. On sait ce qui se passe quand on n'a pas suffisamment de ces moments d'intériorité. On en connaît les conséquences sur notre vie, sur notre santé.
Mais disons que là, ce sont des propos que je tiendrai plus en référence à des personnes qui m'inspirent énormément, comme Frédéric Lenoir, Christophe André, plus récemment Thomas d'Ansbourg,
qui sont des praticiens,
thérapeutes, écrivains, médecins, enfin pour certains, qui travaillent énormément sur le bien-être psychique de l'être humain et qui observent que l'homme a ce besoin d'intériorité pour être bien dans sa vie, bien dans sa tête.
Merci beaucoup, Sophie Reynal, d'être venue partager avec nous cette approche, cette sensibilisation, cette pratique naissante en Belgique aujourd'hui de la pleine conscience. Vous l'amenez petit à petit dans le milieu scolaire, elle est de plus en plus présente aussi en entreprise. Et c'est une pratique qui nous est venue d'Amérique du Nord. Eh bien, je vous propose que pour les minutes qui nous restent dans cette émission, nous y allions au Canada, voir avec un praticien là-bas de la pleine conscience en milieu scolaire, pourquoi, comment et avec quels bénéfices ça fait désormais partie du système de l'éducation dans certaines villes au Canada. Merci d'être avec nous sur la première en ce samedi matin. Nous explorons une pratique d'éducation de plus en plus en vogue, la pleine conscience. C'est un outil thérapeutique, semblable somme toute à la méditation, qui a fait ses preuves dans le traitement symptomatique de la dépression en milieu hospitalier et qui arrive aujourd'hui peu à peu en Belgique en milieu scolaire par le biais d'ateliers aidant les enfants à mieux vivre. La pleine conscience, c'est une pratique aussi connue de longue date outre-Atlantique, en Amérique du Nord, au Québec. Et c'est précisément là que nous rejoignons Manon Jean. Bonjour Manon Jean.
Bonjour.
Vous êtes auteure et fondatrice d'un programme pédagogique appelé L'Arbre au cœur. Et vous avez amené des pratiques de pleine conscience dans le milieu scolaire. Alors dites-nous là-bas, en Amérique du Nord, au Canada plus spécifiquement, où la pleine conscience fait partie aujourd'hui des programmes d'éducation pédagogique, pourquoi et quand la pleine conscience est-elle arrivée en milieu scolaire?
Pour mes démarches à moi, moi ça a été des démarches intuitives en 2010, donc depuis 5 ans, vraiment par rapport à ce que j'étais une adepte de la méditation, de la pleine conscience, et puis c'est suite vraiment à l'entrée scolaire de mon fils quand il a débuté la première année, qui a développé des troubles anxieux, et c'est comme ça moi que j'ai développé des choses spécialement pour l'aider à mieux vivre son entrée scolaire, la gestion de son stress, et puis quand on a commencé à faire ça à la maison, il y a eu vraiment des résultats qui ont été concrets, à un point tel que c'est son enseignante qui est venue me voir pour me demander qu'est-ce qu'on faisait à la maison pour que notre enfant ait une meilleure attitude puis qu'il ait une meilleure gestion de ses émotions parce qu'il semblait moins anxieux, moins stressé en classe.
D'accord. Tant et si bien qu'il a fait modèle, finalement, votre fils. Au-delà de lui, c'est tout le système scolaire aujourd'hui au Canada qui pratique la pleine conscience. C'est pratiqué partout, comme quoi, comme des ateliers d'éveil au bénéfice des jeunes enfants?
Je vous dirais peut-être pas autant. Ça serait rêvé, puis ça serait vraiment extraordinaire. Moi, je travaille depuis quand même 5 ans et les premières années, je l'ai fait bénévolement parce que je croyais vraiment au projet. Malheureusement, dans les écoles et dans les commissions scolaires, il n'y avait pas vraiment de budget pour ce genre d'atelier, mais moi, j'y croyais tellement que j'ai commencé à offrir les ateliers gratuitement en milieu scolaire où mes enfants allaient à l'école. Et puis, finalement, j'ai fait des campagnes de financement dans diverses entreprises pour pouvoir offrir les services gratuitement dans les écoles. Et finalement, de fil en aiguille, ben, y a des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui se sont vraiment intéressés à mon projet. Et puis, depuis 2 ans, donc, on effectue des recherches vraiment en neuropsychologie et en psychologie pour voir l'impact de la pleine conscience chez les enfants à l'école. Alors nous, on est comme au Québec et puis il y a quelques écoles. Moi, j'ai touché à peu près 5000 enfants avec lesquels j'ai travaillé de près et de loin, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Alors, mais précisément, s'il y a des chercheurs, s'il y a une objectivation des résultats qui est permise là-bas au Québec où vous travaillez, qu'est-ce qu'elle montre, cette objectivation des résultats? On les retrouve comment et quels bénéfices retirent-ils, mais concrètement, de cette pratique de la pleine conscience? Enfants.
Donc, l'année passée, quand on a fait notre recherche, on l'a fait sur 8 semaines en milieu défavorisé, donc avec des enfants qui avaient vraiment des besoins spécifiques, des enfants qui ont des particularités, et puis on en a tiré une conclusion plus ou moins au niveau de l'efficacité parce que notre recherche n'était pas assez longue. Et mais cette année, on en fait une nouvelle sur 12 semaines, et puis on voit là à partir à peu près de la 6e ou de la 8e semaine les effets bénéfiques de l'attention et de la concentration et les enfants qui ont une meilleure gestion au niveau émotionnel, donc ils sont juste capables d'être dans un état de calme et puis ils sont capables de vivre l'acceptation par rapport à ce qu'ils ressentent.
Manon Jean, vous êtes en train de nous dire que c'est particulièrement par rapport à des enfants issus de milieux moins favorisés que vous avez observé, objectivé les résultats de la pratique de la pleine conscience. Vous nous dites que là-bas, au Québec, où vous pratiquez avec ces jeunes enfants ces ateliers de pleine conscience, sur ces milieux défavorisés, vous avez vu des résultats. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme une égalisation des différences sociales? On sait que les petits, selon qu'ils viennent d'un milieu familial où on peut gérer sereinement, pour toute une série de raisons, le départ à l'école le matin, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres milieux où on est plus stressé, plus fatigué, où on est moins aidé par le cadre familial pour l'approche du milieu scolaire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la pleine conscience l'enfance telle que vous la pratiquez là-bas au Québec, elle semble montrer qu'elle peut lisser les inégalités sociales?
Ah oui, tout à fait. Et puis, j'ai travaillé beaucoup en milieu défavorisé avec les enfants qui souffrent de stress, mais pour des raisons différentes. On parle au niveau de l'estime, on parle au niveau des modèles positifs qu'ils n'ont pas nécessairement. Tandis qu'en milieu privé ou dans les écoles UP, les enfants sont tout aussi stressés, mais pour des raisons différentes. Donc, au niveau de la performance, au niveau de tout ce qu'on leur demande, autant au niveau scolaire qu'au niveau sportif, parce que les enfants sont très... ils ont des grands agendas aujourd'hui, nos enfants, et puis ils vivent tout autant de stress. Donc, qu'on soit en milieu défavorisé ou en milieu privé ou en milieu régulier, les enfants ont besoin de ce service qui est développer le savoir-être à l'école.
Alors, c'est frappant quand on fait des recherches aujourd'hui par le biais d'Internet pour voir comment la presse internationale traite ces ateliers de pleine conscience. Là-bas, au Canada, au Québec, où vous pratiquez, on voit dans la presse que ces ateliers sont parfois intitulés comme étant vraiment des outils qui viennent sauver les enfants. Il y a vraiment pas mal de termes alarmistes qui sont utilisés, disant que les enfants ont un véritable besoin de se faire aider. C'était presque en réponse à une alarme que ces ateliers de pleine conscience sont arrivés.
Ben, puis en même temps, on parle des enfants, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier les enseignants là-dedans. Ouais. Parce que nos enseignants, aujourd'hui, ils ont des charges de travail quand même assez lourdes. Mais en plus, c'est que les enfants aussi vivent certaines difficultés. Et puis, on remarque que, justement, les enseignants, eux, ont une vie personnelle à eux bien remplie déjà. Mais en plus, ils ont des charges à l'école qui sont quand même assez lourdes. Donc, moi, quand je vais dans les classes, parce que je donne des ateliers, je donne de la formation, mais quand je vais dans les classes avec les enseignants, c'est avec eux, en premier, que je travaille pour les aider eux-mêmes à bien vivre au quotidien, leur gestion personnelle, faire en sorte qu'ils développent la compassion, l'empathie pour eux. Même pour l'avoir aussi avec les enfants. Parce que ça se passe dans notre esprit, tout ça. Et puis, quand on est capable de juste aider l'enseignant, puis que l'enseignant mette ça en pratique dans sa vie privée, puis dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, ça fait un énorme changement dans la classe. Puis les enfants, ils ressentent cette énergie positive. Donc, ça les calme, ça les apaise, parce qu'ils sentent qu'ils sont aimés pour qu'est-ce qu'ils sont et non pour qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Oui, c'est étonnant, vous utilisez ce terme, les enfants sont calmés, et c'est vrai, encore une fois, dans la presse au Québec, on parle presque de ces ateliers de pleine conscience comme d'un calmant.
Oui, tout à fait. Puis il y a tellement de travail encore à faire, parce que c'est grâce à des partenaires financiers qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 personnes, 7 régions différentes qui ont été touchées, puis une quarantaine d'écoles qui ont goûté aux ateliers de l'arbre en cœur. Mais sans ces partenaires financiers-là, ça serait tellement difficile.
Eh bien, en tout cas, on voit que c'est un chemin que vous parcourez avec les résultats positifs
et déterminants
à l'appui. On imagine que ces ateliers de pleine conscience chez vous, comme chez nous, sont en train de faire leur bonhomme de chemin dans le milieu scolaire. Eh bien, un tout grand merci, Manon Jean, d'être venue parler de l'évaluation de ce que cette pratique que vous connaissez depuis plus longue date que nous, là-bas, au Québec, peut donner chez nous. Merci d'être venue partager avec nous ces quelques résultats.
Ça me fait vraiment plaisir.